Rebonjour Thierry, nous partons avec vous pour l'Arctique, votre invité Yves Renaud.
Voilà, donc mardi prochain à la Maison des Océans de Monaco à Paris, une journée sur l'Arctique, le titre « Les enjeux globaux du changement climatique ». C'est une journée organisée par l'ambassade de Norvège en France et par le ministère français des Affaires étrangères en partenariat avec France Culture et les enjeux internationaux. Alors, notre invité qui interviendra, Yves Renaud, est directeur de l'Institut Polaire Français, Paul-Émile Victor. Historiquement, la France est bien sûr plus tournée vers l'Antarctique que vers l'Arctique. Ses expéditions, son statut juridique, c'est un état, comme on dit, possessionné en Antarctique, son savoir-faire en milieu extrême, ses recherches scientifiques, et pourtant elle œuvre aussi en Arctique, notamment sur l'archipel norvégien du Svalbard. Alors, quelles sont les priorités de la France, ses programmes, ses moyens, que peut-elle apporter à la science, seule ou bien sûr en coopération, et ses ambitions aussi, Yves Renaud, encore une fois, Arctique et Antarctique sont complémentaires.
Effectivement, la France est très présente en Antarctique et également dans les îles subantarctiques, les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam, dans le sud de l'océan Indien. Et pour l'Institut Polaire Français, ça représente à peu près les trois quarts de notre activité. Donc on a, la France dispose là dans l'hémisphère sud de cinq stations, les trois îles subantarctiques que je viens de citer, et puis deux stations en Antarctique, une station littorale, la station Dumont-d'Urville en Terre Adélie, et puis plus récemment, ouverte en 2005, la station Concordia, qui est une station co-gérée avec l'Italie, entre la France et l'Italie, c'est une originalité, et qui se situe au cœur du continent antarctique, là où il n'y a que trois stations à l'intérieur du continent, Pôle Sud, tenu par les Américains, et Vostok, tenu par les Russes, et maintenant cette station européenne franco-italienne Concordia. Et sur l'Arctique, la présence française existe depuis longtemps par le biais de chercheurs bien connus, à commencer par Paul-Émile Victor, qui a travaillé au Groenland pendant très très longtemps. Mais nous n'avons pas d'infrastructure au nord, excepté une station au Spitzberg. Et là encore, c'est une station que nous partageons avec nos amis allemands depuis 2003. À Niolesund, la station Invipev, mais c'est la seule infrastructure, la station de recherche polaire française que nous ayons en Arctique.
Alors il va y avoir donc mardi 17 mars, donc une journée avec des personnalités éminentes, donc, et c'est une journée organisée par l'ambassade de Norvège en France et par le ministère français des Affaires étrangères. Le titre est tout simple, les enjeux globaux du changement climatique en Arctique. Vous allez donc, Yves Renaud, y intervenir. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Polaire Français, Paul-Émile Victor. Alors pourquoi est-ce que la France est intéressée directement par tout ce qui se passe ou peut se passer en Arctique?
À vrai dire, c'est que la France a une certaine expertise, en particulier dans le domaine des changements climatiques et de leurs impacts. Comme je vous le disais, la France est assez peu présente d'un point de vue physique par des infrastructures en Arctique, mais par contre, nous avons de nombreux chercheurs qui travaillent, bien sûr au Spitzberg, mais également au Canada, en Russie, en Alaska. Et il y a une véritable expertise française en matière de changement climatique et de reconstruction climatique en particulier. Je rappellerai par exemple que les travaux du GIEC, le groupement international sur les changements climatiques, s'appuient énormément sur les résultats des forages glaciaires en particulier, et surtout sur le forage glaciaire qui a eu lieu à Domsay, là où se situe la station Concordia aujourd'hui, qui permet de reconstituer environ 800 000 dernières années de climat. Et cette reconstitution climatique et de la nature de l'évolution de l'atmosphère et de la concentration en gaz à effet de serre sur ces 800 000 dernières années est vraiment une expertise française. Et c'est pour ça que la communauté scientifique française est tout à fait intéressée pour travailler et s'impliquer avec leurs collègues étrangers des pays arctiques sur ces études du changement climatique. Et dans la perspective de la conférence de Paris sur le changement climatique de décembre 2015, la COP21, eh bien la Norvège avait souhaité mettre en avant un focus particulier sur les relations franco-norvégiennes dans le cadre de ces études sur le changement climatique.
Oui, vous avez parlé à l'instant, Yves Renaud, du Spitzberg. C'est le sommet effectivement de cet archipel norvégien qui est le Svalbard, dont on a souvent parlé ici avec profit. Vous établissez un lien, apparemment, c'est une question de non scientifique, entre les recherches et peut-être les découvertes au pôle sud et au pôle nord, en Antarctique, en Arctique, en tout cas en ce qui concerne le réchauffement climatique. Est-ce que les deux mondes polaires sont reliés dans la recherche ?
Les deux régions polaires sont très étroitement liées dans tout ce qui concerne le fonctionnement du climat de la planète. C'est-à-dire que si les chercheurs vont étudier les changements climatiques aussi bien au niveau du pôle sud que du pôle nord, c'est d'abord bon pour l'intérêt, on va dire, régional de ces recherches, mais surtout pour le lien de ces recherches avec les changements globaux. En effet, la machinerie climatique de la planète repose essentiellement sur les échanges de température entre la mer et l'atmosphère. Et donc, la circulation des océans joue un rôle majeur dans cette régulation climatique. Et ce qui met en route cette circulation des océans, c'est à la fois des différences de température et des différences de salinité de l'eau de mer. Et ça, c'est étroitement dépendant des conditions de température qu'on a aux deux pôles. C'est-à-dire que si le pôle nord ou le pôle sud se réchauffe, à ce moment-là, les conditions thermiques de l'océan vont être modifiées, la circulation océanique va être modifiée et donc le climat va être modifié. C'est donc sur ces aspects-là d'interconnexion entre le climat des régions polaires et le climat global de la planète que se concentrent les recherches aujourd'hui.
Alors ces recherches, on a tendance à croire que ce sont des recherches à très long terme, compte tenu de la complexité du sujet, le changement climatique, et puis des incertitudes qui l'entourent. Alors ce qui est évident, c'est l'importance de tout le monde le dit, de la coopération internationale, et que les scientifiques ont tout intérêt à partager leur savoir pour faire avancer la recherche.
Oui, c'est vrai dans tous les domaines de la recherche scientifique, mais peut-être encore plus dans le domaine des changements climatiques. Tout d'abord parce que la compréhension du climat de la planète repose essentiellement sur des modèles climatiques qui vont nous permettre d'envisager l'évolution sous certaines conditions. Et ces modèles reposent très étroitement sur les résultats d'observation sur le terrain. Et plus on a d'observations, plus les modèles sont fiables. Et en particulier, il faut avoir des observations dans les régions les moins bien couvertes, précisément. À titre anecdotique, nous avons une station sur l'île Amsterdam, qui est l'une des stations de recherche les plus isolées au monde. On est à mi-chemin entre le continent africain et le continent australien. Et les données enregistrées sur cette île, à la fois les données climatiques, mais également les données en concentration en gaz à effet de serre, en particulier en CO2, eh bien, participe très très fortement à la solidité des modèles. Si vous retirez les données de l'île Amsterdam des modèles climatiques actuels, eh bien, ils deviennent beaucoup moins fiables. Et tout ça pour une raison très simple, c'est que en plein cœur de l'océan Indien, il n'y a pratiquement pas de données.
Alors, c'est une île, encore une fois, française, des terres australes et antarctiques françaises. Yves Renaud, et je rappelle que vous êtes directeur donc de l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, pour l'Arctique, et pour terminer, on a souvent dit, vous allez me dire si c'est juste ou non, qu'il y avait de grandes promesses, et notamment d'ailleurs pour les industriels français, en ce qui concernait en Arctique la pose de câbles. Nous avons un secteur d'excellence, et quand on regarde les cartes des câbles sous-marins, la zone est à peu près vierge en Arctique. Puis aussi, on a un domaine d'excellence, ce sont les satellites, l'observation satellitaire, et là aussi, pour ces régions, comment dire, au bout du monde, polaires, on a un rôle à jouer. Est-ce que ça vous paraît important, ces deux cartes que la France peut jouer?
Ce sont des cartes, là encore, en ce qui concerne les câbles sous-marins, je suis absolument pas un spécialiste, donc j'aurais un peu de mal à vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que la diminution de la banquise en Arctique, et donc qui facilite l'accès, en particulier l'accès maritime et des activités en mer, en Arctique, peuvent jouer un rôle important et effectivement faciliter ce genre d'activité. En matière satellitaire, il y a déjà, comme on le disait avant, ça peut pas être une activité purement française, même si la France et le CNES ont des compétences très fortes, mais il s'agit avant tout d'actions européennes, voire internationales. Et nous travaillons déjà avec l'Agence spatiale européenne sur des sujets de ce type. Et effectivement, l'Arctique pour l'Agence spatiale européenne est un des enjeux futurs pour des activités satellitaires.
Juste, je parle aux dernières questions, disons, à l'observateur que vous êtes et non pas aux scientifiques. Vous avez l'impression que l'Arctique jouit en France d'une meilleure curiosité?
L'Arctique L'Arctique, comme toutes les régions polaires, sont des régions qui sont un peu mythiques, parce que très froides, qui semblent très très lointaines. En revanche, il y a un fort attrait actuellement sur l'Arctique, du fait de la proximité, du fait de certains enjeux économiques qui sont importants, à commencer par les ressources minérales, et également des activités touristiques qui peuvent se développer dans ces régions-là. Et puis surtout parce que voilà, on a une présence humaine très très forte dans l'Arctique que l'on n'a pas du tout dans l'Antarctique. Donc tout ça fait qu'il y a un fort intérêt aujourd'hui de l'ensemble des pays, non seulement européens, autour de l'Arctique, de l'Europe, mais aussi au niveau international, pour l'Arctique. Juste mentionner en France, par exemple, un travail qui a été réalisé ces dernières années par le CNRS, coordonné par le CNRS, pour la mise en place d'un chantier arctique, c'est-à-dire d'essayer d'identifier au mieux les expertises françaises scientifiques qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension de l'Arctique. Et c'est ce que se s'emploie à faire le CNRS et les organismes partenaires aujourd'hui à travers ce chantier arctique.
Yves Frenot, qui est directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Alors la journée, c'est mardi prochain. Les enjeux globaux du changement climatique à propos de l'Arctique, c'est à la Maison des Océans de Monaco à Paris, organisée donc par l'ambassade de Norvège en France et par le ministère français des Affaires étrangères, franceculture.fr, bien sûr, pour écouter l'émission Marouin Chet. Puis vous le savez, les enjeux internationaux en partenariat avec Courrier International. Cette semaine, le dossier est consacré à Daesh, la machine Daesh, autant dire tout simplement l'État islamique.
Merci à vous, Thierry Garcin. À demain.